Lyon, les halles Paul Bocuse, la basilique de Fourvière, le parc de la Tête d'Or, le quartier Montplaisir et bien sûr le Festival de Lumière. Bonjour, je suis Pierre Charpioz et vous écoutez Revue et Corrigée, la grande vadrouille, le tour de France des festivals de cinéma par Revue et Corrigée. Aujourd'hui et pour les 5 prochains jours, on vous emmène au Temple du cinéma classique, le Festival Lumière de Lyon. Chaque jour, un invité nous parlera d'un film de la sélection et on ira aussi quotidiennement faire un tour du côté du marché international du film classique, le MIFC, pour comprendre les enjeux d'actualité et d'avenir pour les éditeurs, les distributeurs, les restaurateurs, les exploitants et tous les acteurs du cinéma classique. On fera un point d'étape pour cette 10e édition du MIFC avec sa directrice Juliette Rajon et son responsable de programmation Gérald Duchossois en fin d'émission. Mais tout d'abord, on devait croiser le documentariste Jérôme Huibon au Festival Lumière pour parler de The Offense, un film méconnu de Sidney Lumet, dont le Festival Lumière propose une rétrospective exceptionnelle. Alors Jérôme Huibon, je vous le rappelle, c'est l'auteur de nombreux films sur des acteurs et des réalisateurs, dont récemment Philippe de Broca ou L'Art de la Mélancolie, prochainement sur Ciné Plus Classique. Mais voilà, nous arrivons un peu tard, c'est vrai, et il repart. Alors heureusement, le 21e siècle est avec nous et nous allons pouvoir exceptionnellement établir la connexion à distance. Alors voilà, je branche des câbles, ça devrait fonctionner. Bonjour Jérôme Huibon.
Bonjour. Bonjour Pierre.
Alors vous avez souhaité nous parler de The Offense, 1912, le 18e film de Sidney Lumet, filmographie quand même très impressionnante, mais dont beaucoup de films sont présentés cette année au Festival Lumière. Pourquoi ce film, qui n'est pas forcément le film le plus connu de Sidney Lumet, et de loin même?
Oui, oui, c'est ça, c'est un des films les plus même rares de Sidney Lumet en France, ce qui date de 72, et je crois qu'il n'est pas sorti chez nous avant 2007, donc il a fallu 30 ans pour que le film nous arrive. Pour des questions de. Enfin, parce que le film a été produit pour faire plaisir à Sean Connery et puis pour qu'il accepte de reprendre le rôle de James Bond. Donc, United Artists s'est retrouvé avec un film pas du tout dans le genre de James Bond, hein, parce qu'on en parlait un peu, et un peu l'a mis rapidement au placard, quoi. Donc, et à l'époque, voilà, les films ne circulaient pas aussi bien qu'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait retrouvé sur une plateforme au niveau international pour s'en débarrasser. Mais c'est un énorme, une énorme rencontre, enfin, une nouvelle rencontre entre Lumet et Sean Connery. Je crois qu'ils avaient déjà tourné ensemble. Et c'est un des films les plus noirs que j'ai vu. J'ai découvert le film il y a 3-4 ans seulement. Et j'ai été mais happé. Enfin, c'est ce film qui se passe dans les banlieues un peu sordides de Londres, enfin en Angleterre, et qui rappelle le Get Carter, je dirais aussi de McCoach. Et Sean Connery joue un inspecteur de police en colère, désabusé. En perte de repères, et qui enquête sur une série de meurtres de jeunes filles. Donc, il cherche un pédophile assassin. Et c'est d'une noirceur abominable. Enfin, c'est parfois même insoutenable. J'avais trouvé ça insoutenable. Et au-delà de la noirceur, j'avais été bluffé aussi par la mise en scène, notamment la facture visuelle du film. Je me souviens, la scène d'ouverture entièrement au ralenti qui nous Dès la première scène, on est happé par le film. Et qu'est-ce qu'on va regarder, quoi. Je trouve le film assez fascinant aussi pour ça. Et puis, parce que Connery est à contre-emploi. Enfin, c'est tous ses rôles où il prend un malin plaisir à détruire son image de James Bond. Alors, j'imagine qu'à l'époque, ça devait être compliqué. Il n'y a que lui qui devait se rendre compte que c'était bien de faire ça. Mais avec le recul, maintenant, on a tous ces films où il se bat contre ça. Et ça a donné quelques films formidables, quoi. Donc, je crois que d'ailleurs, Arte passe prochainement un documentaire sur Sean Connery versus James Bond et qui parle de ça. Qui parle de cet acteur en lutte contre ça. Et Roger Moore n'aura jamais cette attitude, par exemple. Donc, il y a pas de. Voilà, il y a une ambition chez Sean Connery qui est fascinante et qui se retrouve dans The Offense.
C'est un titre étonnant, parce que c'est un des rares titres de la période de Ciné Lumet, comme film n'est pas sorti, qui n'a pas de traduction française, donc The Offense, titre en anglais. Si on devait peut-être, on l'a un peu compris, mais pitcher en une phrase ou en deux phrases, de quoi parle exactement ce film, ce serait
Oui,
quoi?
donc c'est un inspecteur de police qui se retrouve à enquêter sur des meurtres de jeunes filles et qui va trouver le coupable, mais qui va aussi lui-même perdre un peu pied, en fait, perdre ses repères. Donc voilà, le personnage n'est pas entièrement. Il n'est pas du tout manichéen pour le coup, et c'est pas une figure héroïque de la police. Non, c'est un homme brisé quasiment, enfin qui perd pied, et c'est ça qui est passionnant, parce que l'enquête est passionnante, mais aussi ce que joue Connery dans le film.
Ouais, on est un peu dans. On annonce un peu d'autres films de Sidney Lumet, comme Prince of the City ou ce genre de choses
Oui,
sur la
oui.
police.
Ouais, donc tout à fait. Je pense que le y a un respect, enfin il y a un côté mentor que va développer Connery avec Sidney Lumet. Je ne sais plus combien ils ont fait de films ensemble, trois, je crois. Même si Family Business est quand même plutôt une comédie, mais il y a quand même, on sent, et surtout on voit que Sean Connery sait s'entourer. Enfin, il va chercher des cinéastes majeurs et il a raison. Donc, il choisit pas la facilité en fait à cette époque-là, ce qui va faire qu'il va être un acteur à la limite du has-been au début des années 80, où il n'y a plus aucun film qui marche. Mais bon, il va rebondir après. Mais je trouve ça passionnant. C'est un acteur qui fait pas de concessions. Et voilà, aujourd'hui, The Offense, c'est un film majeur. Je suis ravi que le Festival Lumière le diffuse, parce que le film passe assez peu. Il n'y a pas d'édition vidéo, je crois, en tout cas en France. Donc c'est génial de pouvoir le voir sur grand écran, quoi.
Sean Connery, Sidney Lumet, The Offense, un film à redécouvrir ou surtout à découvrir à l'occasion du Festival Lumière. Alors Jérôme Wibon, on vous connaît notamment comme réalisateur de nombreux documentaires sur le cinéma. Vous en avez plusieurs sur le feu, j'imagine. Mais vous êtes aussi dorénavant directeur de collection chez Studio Canal avec la collection Nos années 70. En un mot, de quoi s'agit-il? Quel film ou quel type de film? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, on va pouvoir avoir dans cette collection, découvrir dans cette collection.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de types de films différents. Il n'y a pas de genre préétabli. Il n'y a pas que de la comédie, il n'y a pas que du drame ou du policier. Il y avait une volonté avec les équipes de Studio Canal de se pencher en fait sur cette décennie que personnellement je trouve assez majeure dans le cinéma français. On est post-68, donc il y a toute une liberté. Individuel évidemment, mais il y a aussi des libertés avec au niveau politique. Enfin, voilà, avec Giscard et puis la suppression, en tout cas dans les mots, de la censure promise par Giscard. Donc il y a une liberté visuelle, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de nu dans le cinéma des années 70, mais aussi une liberté de ton et de dialogue, des valseuses. Je pense que le langage cru était impossible dans les années 60, par exemple. Donc il y avait une volonté à la fois dans cette collection qui va compter 36 films, d'avoir des incontournables. Alors, les incontournables, pour moi, c'est Calmos, c'est Les Galettes de Pont-Aven, des films de Pierre Richard, des films qu'on connaît, voilà, et qu'on a envie d'avoir en haute définition, dans les meilleures conditions possibles. Je parle de Pierre Richard, mais je sais rien, mais je dirais tout là. Il y avait une édition DVD il y a 20 ans, 20 ans déjà, et j'avais jamais eu d'éditorialisation du film, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu de bonus autour. Donc voilà, il y a ce volonté-là sur ces titres, on va dire, évident, qui me semblait important d'avoir dans la collection. Il y aura bientôt Traitement de choc d'Alain Jessua. Et à côté, des films plus rares, voire jamais édités en DVD. Là, dans la première vague, il y a Défense de savoir de Nadine Trintignant, qui est un polar. En plus, Nadine Trintignant a fait assez peu de polars, donc avec Jean-Louis Trintignant. Voilà, des inédits. La seconde vague, il y a L'ordinateur des pompes funèbres de Gérard Pires, qui est invisible depuis 20 ans, même à la télévision. Qui était bloqué pour des raisons qui m'échappent. Donc là, le film a été restauré. Donc voilà, il y a ce mélange à la fois de films que je trouve indispensables si on veut des films marqueurs de la décennie, et ces petits films à côté, souvent avec des cinéastes majeurs. Enfin, là, par exemple, il y a Dix Clics, Je l'aime de Claude Miller qui a été un échec à la sortie. Donc le film est un peu moins connu que les autres films de Claude Miller. Que La meilleure façon de marcher, que Garde à vue, et j'en passe. Mais il y a Miu Miu et Depardieu, Les débuts de Dominique Lafin. Voilà, il y a une exploration de ces films un peu à côté. Disons que les cinéastes majeurs des années 70, Sauté, Costa-Gavras, Tavernier, sont déjà célébrés. Il y a des coffrets.
Ouais, oui.
Voilà, il y a cette collection, à mon sens, fait partie d'un mouvement de peut-être pas de célébration, mais en tout cas de reconnaissance de cette décennie pour les cinéastes et le cinéma de cette décennie-là. Mais il y avait cette volonté, voilà, d'ajouter ces petits films ou peut-être moins connus. C'est vrai que quand je parle de L'ordinateur des pompes funèbres autour de moi, tout le monde a entendu parler du film, mais personne ne l'a vu.
Ouais.
Ce qui est normal, puisque le film était invisible. Mais il y a de la curiosité, parce que Gérard Pires, on connaît Erotissimo, Attention les yeux, et L'agression, tous ces films importants des années 70. Et il y a du casting, il y a Jean-Louis Trintignant, Mireille Darc, Bernadette Lafont, Bernard Fresson. Donc voilà, il y a une curiosité. Moi, je vais sortir La vieille fille de Jean-Pierre Blanc, un film que j'adore avec Noiret et Gérardot. Et quand on pense à Noiret et Gérardot, on pense plus facilement à Tendre au poulet. Alors que là, ils sont quelques années avant et le film est tout autre dans la relation du couple. Voilà, on est dans un petit classique qui mérite un peu plus de lumière, quoi.
Et les titres sont déjà disponibles aujourd'hui?
Il y en a eu 6
dans la collection
en septembre. Et 3, il y a eu 6 pour le lancement, il y en aura, ça sera par vague de 3 tous les trimestres à peu près. Oui, c'est ça. Décembre et puis après mars. Voilà. Donc
on retrouve au niveau du Festival Lumière, sans trop de difficultés, les CDVD déjà disponibles si on souhaite.
C'est Blu-ray,
si on souhaite se les procurer, et au salon aussi des éditeurs vidéo, j'imagine, éditeurs
bien
DVD Blu-ray. Donc on a vu les années 70 aux États-Unis avec The Offense, c'est les années 70 en France avec cette collection. Merci beaucoup Jérôme Ouibon, et puis on vous souhaite un bon Festival Lumière.
Bon Festival Pierre, à bientôt, au revoir.
Allez, on file au marché international du film classique qui fourmille d'activité en ce deuxième jour. Et on y retrouve Juliette Rajon, directrice du marché, et Gérald Duchossois, chargé de programmation.
Bonjour Juliette Rajon, bonjour Gérald Duchossois.
Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
10e édition déjà pour le MIFC, un anniversaire fêté hier par un grand rendez-vous qui a réuni de nombreux acteurs influents du secteur, une fête aussi, faites les fêtes par des fêtes, c'est assez normal, mais ce grand rendez-vous, le monde du cinéma du patrimoine, vous l'observez, il a changé en 10 ans, en presque 10 ans.
Alors, pour parler de notre marché à nous, le marché international du film classique, il a beaucoup évolué. Il est passé de 2013 d'une centaine d'accrédités à 500 accrédités. Donc on constate que la filière du cinéma classique, elle se mobilise beaucoup sur ce marché et qu'il est donc utile. Donc le marché du film classique s'est considérablement développé. Et il se trouve que depuis une dizaine d'années, notamment en raison, grâce à la multiplication des canaux de diffusion, de toute façon, l'exposition du film classique s'est beaucoup développée également. Donc c'est normal que nous-mêmes, on se développe en réponse à cette exposition croissante, qui n'est pas sans difficulté, hein, du film de patrimoine.
Oui, il y a plusieurs points, effectivement, au-delà de la constitution même de notre marché, de l'événement que l'on crée durant ces 4 jours pour faire venir la filière du monde du cinéma classique. On voit qu'effectivement, il y a eu déjà un souci d'exigence vis-à-vis de toutes les restaurations. Il y a un renforcement du droit, de l'application de toutes les directives. Donc il y a beaucoup de juridique, de technique et bien évidemment de financier qui s'est accentué durant ces 10 années, puisqu'on voit bien que de nombreuses parties du monde restaurent les films. Et donc restaurer les films, ça veut dire après trouver des fenêtres, et pour trouver des fenêtres, il faut les vendre, et donc il faut aussi qu'il y ait des canaux. Et en fait, toute cette chaîne du patrimoine vient au marché international du film classique, tout du moins c'est le travail que l'on mène, puisque par exemple cette année, au cours de cette 10e anniversaire, on a organisé un atelier des pays à faible capacité de production, qui sont des pays qui ont besoin de trouver des voies pour obtenir des solutions concrètes, pratiques, et voir quels sont les chemins à prendre pour faire que ce patrimoine qu'ils chérissent, sur lequel ils travaillent, puisse être vu, puisse être évidemment restauré, stocké, conservé. Toutes ces voies en fait sont véritablement capitales. Et puis il y a aussi tout le travail que l'on fait vis-à-vis de l'étranger. Cette année, on est allé vraiment au-delà des acheteurs pour renforcer cet aspect marché. De nouveaux pays sont représentés, des acheteurs qui, après le MIPCOM, viennent ici pour 2 jours conclure des deals. Et là, il y a un renforcement aussi de cela, c'est-à-dire qu'au-delà des tables rondes, puisque le marché a toujours été et est toujours extrêmement éditorialisé, il y a une activité purement marché, très très forte, qui se développe, et ça veut dire que le patrimoine est bien vivant et vraiment va au-delà des attentes qu'on pouvait avoir il y a 10 ans.
Donc ce sont eux les nouveaux accrédités, de nouveaux pays représentés. Est-ce qu'il y a aussi de nouveaux métiers ou de nouvelles professions qui apparaissent ?
Il y a effectivement bon nombre de professionnels de pays qui étaient peu représentés auparavant. Et puis, on a aussi des zones qui sont présentes cette année. On a des accrédités qui viennent de maisons de production chinoises. On a le Taiwan Film Institute. C'est plus difficile d'avoir les grandes sociétés japonaises à l'heure actuelle, puisque les professionnels ne sont toujours pas habilités à voyager. Donc là, malgré les contacts que l'on peut avoir, pour l'instant, pour eux, c'est impossible de venir. Donc il y a ce développement vis-à-vis de ces pays, et eux-mêmes cherchent à trouver, via le modèle que crée le marché, à trouver cette dynamique véritablement qui existe, mais qui va vraiment sur toute une chaîne, tout cet écosystème du patrimoine, qui va véritablement de la salle jusqu'aux plateformes.
Oui, mais est-ce que c'est pas ça qui a changé aussi, c'est l'écosystème avec de nouveaux acteurs, avec un nouveau mode de diffusion?
Moi, je pense qu'il s'est accentué plus précisément, parce qu'on voit que les plateformes étaient déjà là dès le début, dès la première édition du marché. Mubi était présente, Filmo TV était présente. Les plateformes se développent bien évidemment, puisqu'on voit l'exemple de Gaumont Classique qui est un succès. Gaumont, qui est une maison qui a toujours été présente au marché international du film classique, hein, qui est vraiment la première maison, le premier grand studio de cinéma au monde, la première grande maison de production, et qui était là donc en soutien de ce marché, parce qu'ils croient en leurs films, ils croient en leur catalogue, et pour ça il faut que les films soient vendus, soient vus. Et puis aussi il y a une question bien évidemment d'image, de représentation, beaucoup de discussions juridiques, techniques, et donc ça veut dire que tout cela doit être bien évidemment accompagné, comme on peut le voir cette année avec le Focus Canada qu'on va organiser, ou au-delà de la Cinémathèque, de Téléfilm Canada, il faut aussi qu'il y ait des grandes maisons de production qui s'emparent de tout cela.
Le Focus Canada, on va en parler en détail dans un prochain épisode de La Grande Vadrouille, mais aussi Focus Espagne, qui est le pays invité cette année. Il y avait le Portugal, je crois que c'était l'année dernière. On poursuit un peu, il y a 2 ans, on poursuit un voyage dans l'Europe du Sud. Pourquoi l'Espagne cette année ?
Alors l'Espagne, c'est vraiment un pays qui nous tient à cœur déjà parce que c'est une grande cinématographie. Donc ça, c'est un aspect purement cinéphilique, mais bien évidemment, au sein d'un marché, on va au-delà de ça. Il y a tout un mouvement en ce moment en Espagne, donc vraiment toujours cette idée du marché de se situer dans l'actualité. Il y a un bon nombre de discussions en ce moment qui ont lieu au Parlement pour que le film soit reconnu véritablement comme faisant partie de la culture au même titre que le livre, l'architecture ou la peinture. Et donc il y a toute une protection du médium film qui est évidemment très soutenue par les professionnels et qui fait qu'il y a des grandes discussions au sein du Parlement, comme je le disais, et donc il y a une actualité vraiment très très vivante. C'est une situation qui est quand même assez atypique parce que c'est un grand pays qui est proche de nous, c'est un grand pays de cinéma, c'est un pays latin et on a un acteur majeur qui détient 90% des droits en Espagne. Au-delà de ça, il y a des canaux de diffusion, RTVE, donc, qui est la chaîne publique, diffuse beaucoup de patrimoine. Ils ont même un site web qui est accessible en France pour certains films. Il y a des distributeurs indépendants comme dans bon nombre de pays qui traitent surtout du cinéma indépendant et qui prennent le patrimoine à bras le corps pour faire que ces films soient vus en Espagne. Il y a une situation aussi atypique avec toutes ces régions qui sont très fortes, qui ont des cinémathèques qui sont importantes et tout ce monde a besoin de s'unifier pour être représenté. Donc c'est vraiment une situation à la fois très très intéressante en termes éditorial et puis aussi une situation en termes de business qui est vraiment atypique au sein de l'Europe.
Donc là c'est le pays à l'honneur et puis comme chaque année un pays à l'honneur et un invité d'honneur, Gianluca Farinelli, le directeur de la Cinémathèque de Bologne cette année, un pionnier du cinéma classique, de la restauration.
Ben oui, parce qu'il a, de toute façon, il dirige actuellement notamment le festival.
L'imaginaire,
je vais laisser le dire à Gérald.
L'image retrouvée. En fait.
Voilà, exactement.
Alors ça c'est le laboratoire.
C'est le labo, ouais.
Donc, il cinema ritrovato, donc qui a lieu à Bologne tous les ans, donc fin juin, début juillet. Et Gianluca Farinelli était à l'origine de la création d'un laboratoire qui est maintenant qui a des extensions en Asie. En France avec l'image retrouvée à Paris dont vous parliez juste avant Pierre et puis à Gefilm aux Pays-Bas. Donc vraiment toujours cette idée du traitement du film, là vraiment du support film et puis Gianluca Farinelli qui est un amoureux du cinéma, qui a vraiment une vision du cinéma qui est assez proche de l'impulsion qui est donnée par l'Institut Lumière avec des nouvelles salles, avec un café, avec le fait de retrouver le cinéma dans la rue, le fait de rendre le cinéma populaire, de rendre le cinéma accessible, toujours avoir le cinéma classique au cœur des discussions, que ça soit quelque chose qui vive, qui soit partagé par le plus grand nombre. Et Gianluca Farinelli, au-delà de toutes ces activités qui sont vraiment celles à la fois d'une cinémathèque, d'un exploitant, d'un professionnel qui a co-créé l'Association des cinémathèques européennes, est aussi quelqu'un qui est très très investi au cœur d'un business, même si c'est pas toujours la chose qui puisse être mise en avant. Il y a toutes ces discussions financières puisque la Cineteca édite des DVD, des Blu-ray, des livres. Ils ont aussi une activité de distribution qui est très importante en Italie. Ils ont créé une branche de leur activité qui est la distribution de films classiques en Italie. Donc c'est une extension de toutes ces activités de cinémathèque très vivantes qui véritablement entrent dans un aspect business, donc qui font qu'il y ait une jointure entre tout cet aspect des cinémathèques qui est la conservation, la projection, la projection auprès du jeune public, la conquête de nouveaux publics, et puis bien évidemment tout un aspect business qui est capital véritablement et qui se répand à l'échelle mondiale puisque bon nombre de films qui sont restaurés au laboratoire à Bologne et après montrés soit au festival soit dans de grands festivals sont mis en avant par cette cinémathèque et donc bien évidemment grâce à l'énergie de Gianluca Farinelli qui est l'un des grands passeurs, c'est le terme qu'on utilise un peu partout tout le temps, mais lui se définit comme agitateur culturel.
Un agitateur culturel et quelqu'un qui essaye de rendre le cinéma classique vivant, un peu comme ce qu'on fait à l'Institut Lumière et au Festival Lumière. Il y a des échos, j'imagine, très forts entre les deux institutions. Vous, votre quotidien, là, le festival a été lancé depuis deux jours. Ça va, ça se passe bien, tout est prêt, donc il n'y a plus qu'à...
Alors, c'est le marché qui a été lancé depuis deux jours. On est en fait à mi-parcours sur une édition qui est très riche parce que c'est la 10e édition, donc c'est une édition anniversaire. On a un nombre d'événements qui est à la hausse, puisque cette année, c'est pas moins de 20 événements, opérations diverses que nous avons organisées entre les tables rondes, les line-up, qui sont des rituels très importants, celui des éditeurs vidéo et celui des cataloguistes et distributeurs, mais aussi des formats plus nouveaux, puisque la particularité quand même depuis deux ans, et encore plus cette année maintenant qu'on est dans une année sans lourdeur sanitaire, c'est que les professionnels se sont aussi spontanément rapprochés de nous pour utiliser le marché comme un espace de parole, comme une tribune, comme un lieu de présentation. Donc par exemple, le Relais Culture Europe aujourd'hui est venu présenter un nouvel appel à projet qui va paraître demain. Donc il voulait vraiment le présenter dans l'enceinte du marché, puisque ça concerne...
Le Relais Culture Europe, pardon,
c'est l'émanation en fait de la Commission européenne sur notre territoire français qui relaie bien sûr toute la politique, tout le programme, tous les programmes européens et notamment le programme média et tout le volet culturel et de ce programme-là. On a aussi donné l'impulsion, mais ils se sont mobilisés par la suite à la CICAE, qui est l'association qui fédère les exploitants européens, de monter aussi un module patrimoine en leur sein. Et cette année, ils organisent une espèce de préfiguration de leur cellule patrimoine pendant le marché. Nous, on a été également proactifs sur deux opérations cette année, toujours dans un cadre européen, puisque c'est vraiment maintenant l'assise qu'on veut avoir. On a vraiment explicitement invité les pays à faible capacité de production, ça c'est le jargon de l'Europe. Donc comme ça le dit assez clairement, c'est quand même des pays moins bien dotés, moins de fonds publics, moins d'initiatives privées, petits territoires, moins de moyens, mais qui viennent là, ils sont une douzaine, hein, plutôt des pays de l'Est on va dire, pour échanger des bonnes pratiques, trouver des solutions, échanger des idées. Et puis autre particularité cette année, on organise spécifiquement un petit déjeuner acheteur-vendeur, avec une population également internationale, ça c'est demain. Donc un programme très riche, on n'est qu'à mi-parcours, mais il y a encore une bonne dizaine d'événements à venir sur deux jours, avec une fréquentation record de tout ce qu'on pratique depuis le début du marché.
Voilà. Il y a beaucoup de nationalités, on entend effectivement beaucoup de...
33 pays représentés cette année, alors qu'on était plutôt sur 22 les autres années. Donc vraiment une grande... représentativité européenne, mais pas que, internationale aussi.
J'espère que ça va continuer, même si ça doit être un peu fatigant aussi au quotidien. Bon, on vous souhaite un bon courage et puis une bonne suite pour les prochains jours du marché. Merci beaucoup Gérald Duchossois, Juliette Rajon.
Merci Pierre.
Et voilà, ce premier épisode de Lumière du jour, revue et corrigée la grande vadrouille au Festival Lumière, c'est terminé. Merci à toute l'équipe du Festival Lumière, au MIFC et à l'équipe de revue et corrigée. Au programme demain jeudi, ne manquez pas la grande rencontre avec Marlène Jobert à 15h au Pâté Bellecourt et le ciné-concert avec le film Dans la nuit de Charles Vanel accompagné à l'orgue par Adam Bernadac. C'est à 20h à l'Auditorium de Lyon. Il me reste moi à vous souhaiter une bonne soirée, bonne journée demain. On se retrouve demain après-midi.